Focus sur les droits de l'homme à l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Droits et citoyenneté fait un coup de projecteur sur les droits de l'homme. Quels sont ces droits? Pourquoi en fait-on la promotion? Comment en est-on arrivé à instituer une journée internationale des droits de l'homme? Voilà le contour de cette émission coordonnée et présentée par Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous.
Les droits de l'homme, dans le langage des communs des mortels, ils parlent des droits de l'homme, mais normalement ce sont les abus commis par les préposés de l'État. Les communs des mortels disent les droits de l'homme. Comme ça, nous, on s'adapte à ce langage-là, les droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, c'est pas seulement les droits de l'homme, c'est les abus des droits de l'homme que nous faisons allusion.
Quelle est votre lutte pour l'application effective, s'il y a encore quelques écueils?
C'est l'amélioration des conditions de vie des populations et l'amélioration, nous, dans les droits de l'homme, nous dénonçons et nous amenons aussi des propositions pour qu'il y ait amélioration dans les domaines auxquels nous avons peut-être fait nos travaux ou bien nos expertises.
Quel domaine?
Les domaines des violences sexuelles, les domaines sur les arrestations arbitraires. La vie humaine, elle est sacrée. Nous devons voir de l'autre côté comment l'État est en train de traiter les personnes arrêtées ou les vulnérables.
Je crois que des rencontres, par exemple, dans des milieux scolaires pour vulgariser les questions de droits humains. Je crois que plus de vulgarisation, on doit parler dans nos écoles, avoir beaucoup plus d'ateliers, de journées scientifiques qui vont permettre à ce que les plus jeunes connaissent. Ce sont des initiatives à beaucoup expérimenter et exploiter.
On a dit qu'aucun pays ne respecte le droit de l'homme. Il y a toujours des revendications. Donc nous sommes en marche à atteindre vraiment le respect, même si ce n'est pas total, mais quand même la moitié d'appliquer le droit de l'homme dans notre pays. D'abord, avant d'appliquer, il faut connaître ses droits. Parce qu'on ne revendique pas un droit qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on aura la conscience de comprendre et de connaître le droit de l'homme, c'est ainsi qu'on aura aussi à appliquer ses droits.
Vous, quels sont vos droits que vous connaissez?
Moi, comme je suis là, je suis étudiante, j'ai droit aux études. Donc, c'est ça.
Il n'y a que ça, le droit à l'éducation?
Non, le droit à l'éducation, le droit à la vie, et le droit de mariage, il y a toute une catégorie de droits.
Les droits de l'homme, ça accompagne des devoirs. Ils sont inhérents à la nature humaine. Nous recevons Maître Éloi Mobilensam, coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme, CCDH, qui nous en retrace la genèse.
Les droits de l'homme, c'est les droits inhérents à la nature humaine. Donc, l'homme est né par essence libre. Il est né avec ses droits. Ce sont des règles, ce sont des lois. C'est un idéal aussi qui consiste à traiter l'homme comme étant sujet et non objet du droit. Donc, l'homme, par essence, est né libre, vit librement, mais comme tout droit, il est aussi accompagné de devoirs. C'est ça un peu le droit de l'homme.
Tout ce que nous vivons fait partie des droits. Droit à la vie, droit à la nourriture, on a droit à la santé, on a droit de circuler librement.
Oui, fait partie du droit de l'homme, protégé par la loi, sanctionné par la même loi s'il y a violation de ses droits.
Et comment on est arrivé à créer un contour autour de ces droits de l'homme, à instituer une journée internationale des droits de l'homme? Et
oui.
Pour quelles raisons?
Vous savez, l'histoire du droit de l'homme date depuis l'Antiquité, depuis la société antique. Mais donc, l'idéal même du droit de l'homme est tellement philosophique, puisque depuis l'Antiquité, les statoïciens parlaient déjà, évoquaient déjà le contour sur les droits de l'homme. La Bible elle-même aussi en fait mention. L'homme est né libre. Il n'y a ni juif, ni grec. Vous êtes tous créatures de Dieu. Et dans d'autres valeurs doctrinales, le droit de l'homme a existé. Mais il a pris de relief depuis la Deuxième Guerre mondiale après la barbarie nazie. Les gens ont pris conscience que l'être humain doit être protégé et que sa dignité doit se promouvoir. Donc, dans l'aspect normatif, il faut situer vraiment la protection des droits de l'homme avec la Charte des Nations Unies, qui évoque déjà la protection des droits de l'homme. Et ensuite, en 1948, le 10 décembre, il y a eu une assemblée lors de la Troisième session du Palais des Chaillots à Paris, l'Assemblée générale adopta une résolution portant Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948. Il faut aussi rappeler là que aucun des membres ne s'y était opposé à cette déclaration, sauf quelques puissances occidentales qui s'étaient opposées. Donc, Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'une des déclarations importantes que l'humanité n'ait connue. Et certains vont même dire que c'est le premier manifeste de l'éthique universelle qui proclame l'idéal de la protection, la promotion et la dignité de l'homme. Voilà un peu l'historique du concept des droits de l'homme qui a traversé l'histoire, mais dont la matérialisation, la mise en œuvre date, on peut vraiment le tenir par rapport à la Charte des Nations Unies en 1945 et la Déclaration universelle le 10 décembre 1948.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et Citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Focus sur les droits de l'homme. À présent, rendons-nous au village et à l'Académie des droits de l'homme organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en marge du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme, étudiants et chercheurs s'expriment librement.
Je suis Mademoiselle Souria, du bureau de liaison avec le Parlement, du BLP5CO, chargée de la communication et de gouvernance et redevabilité. Voilà.
Pourquoi les femmes se réservent souvent de parler? N'est-ce pas là aussi faire obstruction à vos droits?
Non, je ne pense pas. Mais c'est que je pense qu'on hérite ça de nos coutumes, de nos cultures. C'est que moi, en tant que femme, je cherche à bannir déjà, désormais. Vous m'avez, moi, femme, devant votre micro en train de parler. Je pense que vous allez enlever cette image de la femme, voilà.
Quels sont vos droits que vous défendez le plus souvent?
Bon, en tant qu'être humain, par exemple pour le BLP, je peux pas dire que je défends le droit en tant que femme, parce que chez nous, au bureau de liaison avec le Parlement, vous trouverez que, en tout cas, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Là, en tout cas, c'est rassuré. Là-bas, les genres est vraiment, on promouvoit vraiment la femme dans le bureau de liaison avec le Parlement. Donc, il y a l'équilibre, il n'y a pas de discrimination, femmes et hommes.
Selon vous, pourquoi célèbre-t-on cette journée? Doit-on nécessairement célébrer cette journée?
Oui. Parce que, en tout cas, généralement, partout dans le monde, surtout dans des pays comme le nôtre, on voit des développements. On trouve que le droit humain, le droit de l'homme est un peu banni. Mon confrère ou mon collègue venait de vous dire tantôt qu'il y a de lois dans notre pays qui n'est pas vraiment vulgarisée. On se rend compte que la population congolaise, la législature a mis en place des lois que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas accès. Alors, on doit promouvoir ça. La Journée internationale des droits humains doit à la raison de son existence dans ce sens-là. Donc ça doit exister pour permettre à ce que les citoyens, la majorité de la société, puissent comprendre les enjeux de ce qu'il y a relatif aux droits de l'homme.
Alors ici dans ce village de droits de l'homme, nous exposons en fait ce que notre structure fait pour accompagner l'accomplissement des droits de l'homme, parce que la structure elle a été créée même sur base de droits de l'homme. Et parmi les 30 droits reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme, 5 de ces droits sont à la base même de la création de la structure pour laquelle nous exposons maintenant. Nous accompagnons le gouvernement du pays host dans lequel nous sommes à pouvoir mettre en œuvre les stratégies liées à ces différents droits, dont par exemple le droit à l'éducation que nous accompagnons, le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le droit à l'eau et à l'assainissement. Parmi ces droits, par exemple le droit à l'éducation, c'est répertorié à l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de participer à la vie culturelle à l'article 27 de la même déclaration, le droit de bénéficier du progrès scientifique, c'est toujours le même article 27, le droit à la liberté d'opinion et d'expression, qui est reconnu par l'article 19.
Pensez-vous que tous ces droits sont respectés?
D'une certaine manière, ils ne sont pas respectés parce qu'ils sont méconnus. Parce que s'ils étaient connus des personnes auxquelles ces droits sont destinés, ce droit serait un peu plus respecté parce que ces personnes exigeraient à ce qu'on puisse respecter ce droit-là. Mais étant donné que ces droits ne sont pas connus, il est un peu difficile de faire respecter ce droit parce que, ou même de réclamer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce qui fait que nous sommes également ici pour, en fait, promouvoir ce droit-là, sensibiliser ces gens à la reconnaissance des droits qui leur sont octroyés naturellement, déjà par la nature, parce que les droits de l'homme sont une déclaration, parce que une déclaration, ça signifie que on déclare ce qui existe déjà. Ce n'est pas que, voilà, c'est l'État qui donne ce droit, ou, voilà, mais ce sont des droits qui existent du simple fait que l'homme naît en tant qu'être humain. Ce sont des droits qui sont reconnus par ce simple fait-là. Et voilà, les structures telles que les Nations Unies ont reconnu 30 de ces droits-là.
Donc la méconnaissance des droits de l'homme constitue la problématique, la vraie problématique des droits de l'homme qu'il faut casser. Donc il faut casser cette ignorance en sensibilisant les gens à connaître leurs droits.
Oui. En tout cas, outre la traduction qui a été faite dans presque toutes les langues du monde, il ne faille pas simplement traduire, mais il faut également aller auprès de ces gens-là pour leur informer des droits qu'ils ont. Parce qu'un droit qui ne se réclame pas, c'est un droit qui se perd. Donc, du fait que les gens ne connaissent pas ce droit-là exactement, ça constitue la problématique essentielle qui fait que les droits de l'homme ne sont pas appliqués, parce que pour ne pas dire, ne sont pas connus. Il faut déjà qu'ils soient connus pour être appliqués.
Et vous, à votre niveau, que faites-vous pour que ces droits ne soient pas méconnus?
Alors déjà, à notre niveau, comme vous pouvez le voir, nous avons produit des exemplaires de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que, outre tout ce qu'il y a comme droit caractériel par rapport aux enfants, aux femmes, aux personnes vulnérables, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle touche tout le monde. Que ce soit quelqu'un qui soit pygmé, que ce soit un blanc, un noir, ça concerne tout le monde. À notre niveau, nous avons par exemple toutes ces personnes qui viennent visiter le stand, on leur donne cette Déclaration universelle des droits de l'homme, traduite en français, parce que le français fait partie des langues officielles de la République démocratique du Congo. Malheureusement, pour le moment, les traductions que nous avions dans les quatre langues nationales sont déjà finies, ce qui fait que nous sommes obligés de donner la traduction française qui reste.
Priska Edikabeng Mbandu, je suis étudiante à l'UCSAM.
Alors, qu'est-ce que vous faites ici?
Bon, vu que c'était le village de droits de l'homme, nous sommes là pour écouter, c'est un atelier de formation de droits de l'homme, échanger, pourquoi pas aussi appliquer le droit de l'homme. Faire respecter cela.
Comment appréciez-vous l'application?
On a dit qu'aucun pays ne respecte le droit de l'homme. Il y a toujours de revendications. Donc nous sommes en marche à atteindre vraiment le respect, même si ce n'est pas total, mais quand même la moitié d'appliquer le droit de l'homme dans notre pays. D'abord, avant d'appliquer, il faut connaître ses droits. Parce qu'on ne revendique pas un droit qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on aura la conscience de comprendre et de connaître le droit de l'homme, c'est ainsi qu'on aura aussi à appliquer ses droits.
Vous, quels sont vos droits que vous connaissez?
Moi, comme je suis là, je suis étudiante, j'ai droit aux études, donc c'est ça.
Il n'y a que ça, le droit à l'éducation?
Non, le droit à l'éducation, le droit à la vie, et le droit de mariage, il y a toute une catégorie de droits.
Je suis Monsieur Jedouin Mombenga, l'université chrétienne Cardinal Malula, et je suis venu pour le compte du club des droits de l'homme de l'université chrétienne Cardinal Malula.
Qu'est-ce qui vous a motivé d'être présent ici?
La question des droits de l'homme aujourd'hui, elle est une question qui est pertinente, elle concerne tout le monde, et aujourd'hui ça fait partie des priorités des Nations Unies. Alors comme étant étudiant en droit, mais aussi comme étant activiste, je m'y vois dans l'obligation de venir participer à cette formation afin de renforcer mes capacités sur cette question des droits de l'homme.
Et depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez déjà appris?
J'ai appris beaucoup de choses et certaines choses étaient pour moi comme des rappels et d'autres comme étant des nouvelles connaissances. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme, par rapport à son origine aussi et aussi à certains textes qui l'ont précédé.
Qu'est-ce que vous retenez de cette Déclaration universelle des droits de l'homme? Deux ou trois phrases?
Oui, en une phrase, je pourrais dire que la Déclaration, elle est comme la Bible pour nous qui sommes des défenseurs des droits humains. Et dans son contenu, les États ont puisé certaines règles qui les ont édictées dans leur constitution. Et moi, à mon avis, je pense que la Déclaration, même si elle n'est pas encore ou elle n'est pas traitée comme une loi, mais sa puissance réside dans la manière dans laquelle elle a eu à donner beaucoup de règles par rapport aux droits positifs nationaux dans certains pays. Voilà.
Comment appréciez-vous son application sous le plan national?
Son application souffre beaucoup des problèmes liés à la vie politique. C'est vrai que, comme on a dit, c'est un idéal. Pour l'atteindre, il faudra une conscience collective. J'estime qu'avec l'apport de tout le monde, les gouvernants et les gouvernés, les droits de l'homme seront respectés avec le temps. Mais je suis convaincu et certain que ça ça sera une bonne chose pour que le monde puisse vivre dans une situation dans laquelle les droits et libertés fondamentaux sont respectés.
Moi, c'est Lisette Fouya de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, en sigle ACAJ. Nous faisons partie de ce qui justifie au moins le peuple par rapport à leurs droits humains. Je suis vraiment contente de participer à cette formation, le droit de l'homme, apprendre ce qui est le droit de l'homme. Quand on parle de droit de l'homme, nous trouvons que c'est quelque chose qui est, on doit être égaux avec la loi.
Qu'est-ce que vous pouvez formuler comme recommandation?
Nous avons beaucoup de litiges ici et qu'on doit sensibiliser la population pour connaître leurs droits, le respect à la santé, avoir le respect à l'éducation de ce droit et un devoir aussi pour nous.
Christiane Chivoadi, des journalistes en danger GED.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Je pense que ça représente quelque chose de très important dans la vie des personnes humaines parce que ça régit en fait la vie des personnes. C'est pour éviter qu'il y ait des abus comme ce qui a eu, parce que ça a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'était pour éviter, en fait, tout ce qu'il y a eu. Donc, ça met fin un peu à beaucoup de discrimination, à tout ce qui s'est passé un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le non-respect de la personne humaine. Donc, la commémoration des droits de l'homme, ça nous rappelle un peu d'où nous venons, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu avant qu'il y ait un document qui régit la vie fondamentale d'un être humain. La lecture que je peux faire par rapport à notre pays, c'est que tout n'est pas respecté, mais on n'est pas aussi dans l'abus comme tel des droits de personnes. Donc il y a des droits qui sont respectés, comme le droit à l'éducation par exemple. C'est cette année seulement qu'il y a eu introduction de la gratuité de l'école primaire, je pense. Même si c'est pas trop ça jusque-là, mais au moins c'est un pas déjà. Et je pense qu'il y a aussi le droit à la santé. La sécurité, c'est pas trop ça. Il y a des contrées, il y a des endroits où la sécurité est vraiment une denrée rare. Mais sinon, on a le minimum en fait, ce qu'on peut espérer des droits de l'homme.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète. C'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Droit et citoyenneté se poursuit sur la promotion des droits de l'homme à travers ce focus. Parmi les droits de l'homme, le droit à la vie est considéré par les doctrinaires comme le noyau dur des droits. Voyons maintenant comment ce droit est protégé. Nous abordons les droits des condamnés à mort avec Maître Lievin Gondji, président de l'ASBEL Culture pour la paix et la justice. Maître, vous avez mené des enquêtes qui ont abouti à la publication de ce rapport intitulé « Vers une mort en silence ». Pourquoi d'abord une mort en silence?
Vers une mort en silence parce que nous avons découvert que la plupart de ces personnes sont méconnues des autorités administratives compétentes des prisons. Aujourd'hui, si vous allez au ministère de la Justice, ils n'ont pas ces statistiques. Si vous allez à la Cour de cassation, ils n'ont pas ces statistiques. Si vous allez à la Haute Cour militaire, ils n'ont pas ces statistiques. Et alors, qui les gère? Quand quelqu'un est déjà ignoré, c'est qu'il est voué à sa perdition. Ensuite, ils vivent dans les conditions inextricables, notamment le manque de repas, de nourriture, surtout de nourriture saine, notamment l'absence totale des soins de santé, notamment l'absence d'assistants, des spécialistes de santé mentale. À partir de ce moment-là, ces personnes sont exposées à une mort lente. Nous avons été, par exemple, à Nguenga. Nous avons connu certains condamnés à mort, dont certains sont déjà morts, dont John Bompengo. On l'a vu à Nguenga. Nous avions tiré la sonnette d'alarme à l'époque. Quelques temps après notre passage, l'homme est décédé. C'est une mort silencieuse. C'est une mort lente. C'est une exécution. Parce qu'on vous dira, au Congo, nous observons le moratoire. Pourquoi? C'est parce que depuis 2003, on n'exécute plus. Mais il y a toute une série de personnes condamnées à mort qui sont mortes sans être exécutées. C'est ce que nous appelons vers une mort en silence. Donc nous sommes dans le moratoire des exécutions par arme ou par pendaison, mais nous sommes dans la peine des morts exécutées en silence. C'est ça la philosophie de ce titre.
Vous vous attendez à quels résultats?
Premièrement, nous révélons, parce qu'il est important de révéler pour que l'administration compétente prenne ses responsabilités. je suis certain que, quelle que soit la réaction de l'administration, c'est-à-dire qu'on rejette nos rapports, notre rapport en disant que ce n'est pas vrai, ou qu'on l'accepte, l'administration fera un effort de démontrer que ce que nous disons est vrai ou pas. Déjà ça, c'est-à-dire s'intéresser déjà aux condamnés à mort par l'administration compétente, c'est déjà un pas pour nous. Si demain, vous avez un rapport du ministère de la Justice, des autorités compétentes qui vous disent « Ah, c'est faux, sur les 10 prisons, il n'y a pas 510 condamnés à mort, il y en a 50 », c'est déjà les statistiques officielles. Il vous appartiendra de contredire, parce que nous, on vous donne les noms. Donc, il appartiendra de nous dire, ben, voilà. Au moins, on aura fait un effort de les identifier. Maintenant, si on estime que ce que nous disons est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas très difficile. Je sais que les chantiers ouverts au gouvernement, aux autorités, sont nombreux. Mais ici, nous demandons l'observation des normes Nelson Mandela, c'est-à-dire les conditions minima de détention. C'est pas terrible. C'est quoi? C'est qu'avant d'abord que quelqu'un arrive à la prison, il a droit à un procès équitable. La plupart de ces condamnés à mort n'ont pas été jugés dans les conditions de procès équitable. C'est-à-dire avoir le droit au recours, c'est-à-dire avoir le droit à un avocat, c'est-à-dire avoir le droit au moyen de prévenir des enquêtes, et ainsi de suite, ils n'en ont pas eu. Deuxièmement, permettre à ces personnes, lorsqu'ils sont condamnés, d'être en contact avec leur famille. Comment voulez-vous que quelqu'un est condamné à Kananga et se retrouve à Angenga à l'insu de sa famille? Vous vous rendez compte? Financé par la MONUSCO. Quelqu'un est condamné à Goma, se retrouve à Angenga à l'insu de sa famille. C'est quoi? Ça signifie qu'à partir du moment où on vous condamne, vous cessez d'être un être humain. Mais non, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de détention. Il y a quoi? Massacre. Donc, il faut remettre ces gens dans les conditions minimales de Nelson Mandela. Elles ont été condamnées, ces personnes-là. On les met dans les conditions de détention normales, c'est-à-dire où ils peuvent, même si c'est difficile d'avoir à manger, mais qu'ils aient les repas réguliers, même si c'est difficile de leur donner les santé, les soins de santé extraordinaires, mais le minimum doit être là, les conditions de santé. Et ça, ce n'est pas impossible. Déjà, avoir à dormir dans les conditions plus ou moins acceptables. À Nguengan, on est presque dans une niche, on est presque dans un essaim, c'est-à-dire l'association de fourmis ou des abeilles. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi ne pas arranger, étendre rapidement les constructions qu'on est en train de faire à Luzoum? Ailleurs, même à Nguengan, on peut construire. Même à Ekafela, on peut construire. Même à Osio, on peut construire. Pour que lorsque le nombre que peut contenir la prison est atteint, qu'on aille ailleurs. Je ne suis pas contre qu'il existe quelqu'un qui est condamné à Kananga soit amené à Nguengan, mais sa famille doit le savoir. Vous voyez, si la famille ne le sait pas, nous sommes dans une relégation. Et ça, c'est terrible. Vous voyez, voilà ce que nous attendons de l'administration. Nous ne sommes pas contre notre gouvernement. Vous savez pourquoi nous sommes choqués? Il y a eu cette année l'examen périodique universel qu'on appelle EPU à Genève, au Conseil des droits de l'homme. Toutes les recommandations soulevées par nous, les associations des droits de l'homme, vis-à-vis du gouvernement, ont été rejetées. C'est la première fois qu'on voit cela. Alors que Félix Tshisekedi est au pouvoir. C'est pas possible. Quand vous rejetez cela, ça signifie que vous pensez que vous êtes à 100% dans le respect des conditions de détention ou quoi? Mais je vis, monsieur le ministre des droits humains, dire qu'il est en train d'organiser les travaux pour préparer les pays. Mais attendez, les recommandations sur le premier des droits, les droits à la vie, ont toutes été rejetées. Donc, je voudrais que le ministre des droits humains prenne conscience de ça, qu'il s'associe à nous, pas seulement à CPJ, aux défenseurs des droits de l'homme, notamment sur la question de l'abolition de la peine de mort, mais aussi des conditions de détention. Pour améliorer, c'est aussi simple que ça. Pourquoi je l'ai dit? Mais lorsque nous sommes arrivés à Ost, vous savez que le père du président de la République actuelle a été condamné, a été relégué dans ce pays. Moi, j'ai connu des gens qui ont été condamnés à mort. Le président du Burundi, c'est un ancien condamné à mort, Nkurunziza, qui est aujourd'hui au pouvoir. Donc, quand quelqu'un est condamné à mort, ce n'est pas la fin. Et on ne sait pas, j'insiste sur cet élément, la roue qui tourne aujourd'hui, qui fait de vous autorité gouvernementale, autorité législative, autorité je ne sais qui, qu'est-ce qui sera fait de toi demain? Nous sommes tous des humains. Combien de journalistes sont devenus? Donc, pour vous dire qu'avant de devenir, tous les oripeaux que nous avons aujourd'hui des titres, c'est rien. L'essentiel que nous avons tous, c'est d'abord d'être des humains. Et puisque nous sommes des humains, améliorons les conditions de nos frères qui méritent d'être jugés, d'être sanctionnés, de payer pour les crimes qu'ils ont commis, mais qui ne doivent pas être tués. Même à petit fait, comme c'est le cas maintenant.
La Commission nationale des droits de l'homme défend les droits des condamnés à mort. Son président, Mwamoussou Mwamba, évoque ses droits.
Et un condamné à mort a tous les droits. Il a droit à l'alimentation, il a droit au logement, et donc il a tout le droit, sauf le droit de circuler librement. Ça, il est coincé. Il a tous les droits comme tout détenu. Il a droit à des visites, il a droit aussi à la nourriture, il a droit aux soins médicaux. jour. Ce n'est pas dit que parce que quelqu'un est condamné à mort, donc il est appelé à mourir, même s'il est malade, on ne va pas le soigner. Il doit seulement mourir, non. Et surtout que dans notre pays, un condamné à mort, on ne l'exécute pas. Nous sommes dans un moratoire de fait. Alors, il a tout le droit. Sauf qu'il est dans l'embarras. Il ne sait pas quel est son sort avec tel ou tel régime, parce que le moratoire de fait, c'est une mesure administrative qu'on peut abroger ou annuler à tout moment. C'est pour cette raison que nous militons à ce que la RDC ait signé le moratoire universel pour être dans le moratoire de droit. Ça, c'est un. De deux, nous voulons que la RDC puisse abolir la peine de mort, comme dans tous les autres pays.
Selon le coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme, il n'y a pas d'échelle en matière de droits de l'homme. Tous les droits sont primordiaux, mais il plaide pour le respect de la vie humaine qui est sacrée, maître et loi.
En matière des droits de l'homme, il n'y a pas l'échelle de valeur à faire. Les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine, donc doivent être respectés. L'idéal, c'est la protection, la promotion et le respect de la dignité de l'homme. C'est ça. Mais est-ce qu'il faut en faire l'échelle de valeur? Je n'en vois pas. Mais le droit à la vie. Pour certains doctrinaires, ils estiment que le droit à l'intégrité physique d'un homme, c'est que certains auteurs appellent le noyau dur des droits de l'homme. Donc la vie est sacrée, on ne doit pas les toucher, soit on la touche sous certaines conditions.
Le droit à la vie.
Droit à la vie. Mais... Même notre constitution consacre le droit à la vie. En soi, la constitution, dans son énoncé, se réfère dans l'exposé des motifs, on dit, nous référant à la déclaration universelle des droits de l'homme, à la charte des Nations Unies. En soi, nos constitutions ont comme soubassement, comme source, l'idéal des droits de l'homme qui réside dans la déclaration universelle des droits de l'homme.
Les condamnés à mort meurent en silence. N'est-ce pas une façon d'exécuter la peine de mort à petit feu?
Oui, vous savez, quelqu'un qui est aux arènes, un prisonnier, c'est un homme. Ses droits doivent être respectés. C'est vrai que le droit de l'homme, c'est un idéal, c'est une conquête, c'est un défi. Nous n'avons pas encore atteint le point maximum ou optimal de droit de l'homme. C'est vrai qu'il y a certaines pratiques dans des milieux carcérales qui sont vraiment les dénis des droits de l'homme, ce que nous déplorons. Mais c'est là encore la vivacité de cette déclaration des droits de l'homme. Nous interpelle chaque jour, en tout moment et en tout lieu, que l'être humain doit être protégé, sa dignité doit être garantie. Ça remet en actualité la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est en soi un idéal à conquérir chaque jour, qui est un défi, une sorte de challenge qu'on doit toujours mener. Par le monde, aucun pays n'a atteint 100% le respect des droits de l'homme. Aucun pays. C'est vrai que, dans certains degrés, certains États mettent en place le mécanisme de respect des droits de l'homme que d'autres. C'est regrettable que qu'il y ait un prisonnier qui n'est pas nourri, puisque le droit à l'alimentation fait partie des droits de l'homme. On parle même de le droit de la quatrième génération, droit à une alimentation saine, tout ça.
Focus sur les droits de l'homme, maître Éloi Mobilansen de la chaire congolaise pour les droits de l'homme. Maintenant, que fait exactement la chaire congolaise en matière des droits de l'homme?
Oui, la chaire congolaise des droits de l'homme, c'est une ONG de droits de l'homme comme tant d'autres, mais nous sommes là pour la promotion du droit de l'homme, puisque une ONG de droits de l'homme ne peut pas prétendre protéger les droits de l'homme, puisque la protection des droits de l'homme, c'est les prérogatives, c'est la compétence exclusive de l'État. Nous sommes là que pour sensibiliser, promouvoir, dénoncer s'il y a des pratiques qui violent les droits de l'homme. Notre ONG a cette spécificité que nous avons un observatoire des prisons. C'est-à-dire que nous travaillons dans des milieux carcéraux, faire les plaidoyers auprès des autorités du pouvoir public pour les cas de ceux dont le dossier est vide ou ceux qui en réalité ne doivent pas être là. Et nous avons aussi, là encore c'est une autre particularité, mis en place le club de droits de l'homme dans des écoles, dans des instituts supérieurs et dans des milieux préscolaires. C'est l'une des spécificités que nous avons. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Oui, puisque aujourd'hui, il est reconnu que le droit de l'homme fait partie de rapports internationaux. Vous savez, dans les cas de notre pays, nous sommes en train de faire face aux incursions des rebelles à l'Est. Vous savez, quand il y a des mouvements de rebelles, cela remet en cause le respect des droits de l'homme. Nous en appelons à l'élaboration d'un plan national des droits de l'homme qui manque aujourd'hui. Et il faut encore élaborer les cadres de concertation du dialogue dialogue entre les ONG des droits de l'homme et l'État, et entre l'État et nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Donc, les droits de l'homme n'est pas seulement que l'affaire de l'État, mais c'est l'affaire de tous. Tous nous devons nous impliquer pour assurer l'effectivité de la promotion et la protection des droits de l'homme, bref, de la dignité humaine.
Droits et citoyenneté d'aujourd'hui autour du focus sur les droits de l'homme est terminé. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci et vous invitons à rester toujours branchés sous la fréquence de la paix.